Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, sur RMC, Story, de midi à 15h. Autour de moi, il y a toujours Alfred Orange, journaliste RMC, Juliette Briens, journaliste à l'Incorrect, Pierre-Edouard Magnan, président de l'association Chômeurs et Précaires, et Thierry Moreau, journaliste média. Dans un instant, SOS Fantôme 5, Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo. Le cinéma est-il en panne d'idées? Vous nous appelez au 32-16 à 14h30. Ce sera RMC Conso. À 14h40, Les Immanquables d'Alfred. On parlera de quoi notamment, Alfred?
On parlera de TikTok, l'application qui va rémunérer les utilisateurs les plus assidus.
Et puis à 14h50, comme tous les jours, Vincent Cerroussi n'aura toujours rien compris.
RMC Estelle Midi.
C'est la sortie du jour. Tiens, Fred, faudra que tu regardes. J'ai pas pensé ce matin à regarder la date de sortie de Ghostbusters. Ça doit être 83, 84, un truc dans ce genre-là. Bref, une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, sort sur les écrans en France SOS Fantôme 5. Alfred, ça, c'est avant l'arrivée du Comte de Monte Cristo qui doit sortir le 28 juin prochain sur les écrans en France et peut-être des Trois Mousquetaires partie 3.
Oui, 1984 pour le premier tome de SOS Fantôme. Ce qui est surprenant, Rémi, c'est que dans les faits, les remakes, ils ont toujours existé. Les frères Lumière qui ont inventé le cinéma au 19e siècle ont par exemple tourné deux fois L'Arroseur arrosé. Mais c'est vrai, la tendance...
Le 2 était mieux.
La tendance s'est accentuée ces dernières années, ça c'est vrai. Le premier argument, c'est l'évolution technique du cinéma. La tentation, c'est de refaire le même film avec de meilleurs effets spéciaux et une meilleure sonorisation pour assurer un spectacle différent. Le deuxième argument, il est marketing. Vous achetez un titre de film et donc vous vous assurez un public parce que les films, ça coûte cher. Alors les producteurs limitent les paris et les scénarios originaux en s'assurant des rentrées d'argent certaines. Pourtant, le filon n'est pas forcément apprécié de la part des spectateurs. D'après une étude anglaise publiée l'année dernière, 91% des spectateurs préfèrent le film original au remake.
SOS Fantôme, Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, le cinéma est-il en panne d'idées? Vous nous appelez au 32-16. Pierre-Edouard Magnan.
En panne d'idées. D'abord, il suffit de regarder un peu les festivals, de regarder la production des plateformes, etc., pour voir qu'il y a quand même des choses nouvelles qui sortent. Après, si je veux faire mon réactionnaire de service, j'ai envie de vous dire que depuis Homère, l'Iliade et l'Odyssée, de la guerre, du fantastique, du sexe, de l'amour, on a à ce moment-là pas inventé grand-chose depuis l'Iliade et l'Odyssée. Caricature un peu mon propos, évidemment, vous l'aurez compris, mais si on va par là, on reprend un peu toujours les mêmes choses, après on change le décor et les costumes. Bon, là, je vois que Dumas fait toujours recette, en même temps, Alexandre Dumas pouvait pas le savoir, mais quel merveilleux scénariste. On peut, en plus, vu la taille de ses romans, pas qu'on en fait un film, on en prend qu'un bout, on peut faire, à mon avis, 15 Trois Mousquetaires en n'ayant pas épuisé la matière de Dumas.
Quand même, on frise pas le ridicule. Moi, je me souviens de, c'était en 2011, cette année-là, parce qu'il y a une guerre entre deux.
Ah oui, avec la guerre des boutons.
La guerre des boutons. Alors, c'est du délire. Alors, après, peut-être que je vais jouer mon vieux con aussi, mais moi, Yves Robert, c'est un réalisateur que j'adore. Yves Robert, il réalise en 1962 La guerre des boutons. Bon, pourquoi? Allez, on fait un remake, d'accord. Mais cette année-là, en 2011, il y a une guerre entre deux sociétés de production, entre deux distributeurs. Et qui découvre, pendant le tournage, qu'en fait, il y a deux tournages qui sont en cours. Et les films sortent, les deux versions sortent à 15 jours d'intervalle. Là, c'était le comble du ridicule quand même.
Alors, oui, c'est le comble du ridicule. Par contre, qu'après celui d'Yves Robert, qui fait partie de ces films un peu mythiques, mais au demeurant extrêmement datés, qu'on en refasse à 50 ans après, ça me choque pas forcément. Moi, je dis toujours, on pense souvent à l'exemple Pagnol, le fameux Marius, Fanny César. Il y a eu plusieurs, il y a eu le téléfilm, etc. Moi, franchement, l'original, Oran Desmazis, j'ai le cœur brisé, c'est épouvantable. Enfin, moi, je trouve ça épouvantable. Alors, c'est l'original, mais c'est Rému. Lui, parce que là aussi, c'est les jeux d'acteurs qui bougent. On parle du décor et des trucs. C'est les jeux d'acteurs. Bon, Pierre Frenet, oui. Oran Desmazis, je trouve c'est épouvantable. Rému est, à mon avis, lui, intemporel. Mais finalement, quand on refait les autres après, il y a aussi un peu le goût du jour. Quand, si vous regardez des pièces de théâtre filmées de Sarah Bernhardt, c'est irregardable. Ça a été une star de son vivant. C'est irregardable.
Juliette Briens.
Non, il est normal que tous les réalisateurs aient envie de s'approprier nos grands classiques, nos grandes histoires, nos grands romans français. C'est tout à fait normal. Moi, ça.
La littérature française n'est pas suffisamment riche.
Mais justement, c'est ce que j'allais vous dire. On est peut-être surtout dans une panne de romanciers. plutôt qu'une ouais. panne de d'inspiration cinématique. Mais je pense que déjà ce n'est pas propre à la France, puisque vous regardez aux États-Unis, oui, oui. je sais pas il y a combien il y a de remakes de Spider-Man par exemple, mais ça commence à friser le ridicule comme vous dites. Mais je pense en revanche qu'il y a beaucoup d'aspects français, notamment de notre histoire, qu'on n'a pas assez exploité. Bah oui. Et c'est dommage parce qu'il y a encore énormément d'histoires à raconter. Et par exemple, je trouve dommage que Ridley Scott s'approprie Napoléon bientôt dans un immense film qui va sortir par Ridley Scott. Je trouve dommage.
Ouais, c'est sorti. Hein. Napoléon Ridley Scott.
Ah, oui, excusez-moi.
Il est sorti en mode
décembre. Là, oui, tout à fait. Enfin, j'ai pas pu aller le voir et c'est pour ça que je. Ouais.
Après,
je trouve dommage.
Les couleurs.
Voilà, qu'on n'ait pas, nous, notre interprétation de Napoléon dans un film grandiose, mais non, mais dans un grand film à ce niveau-là. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup de pans de notre histoire qu'on n'a pas exploité.
C'est ce que je voulais dire aussi.
Au lieu d'aller
même dans la littérature française, il y a un certain nombre de romans, de grands auteurs qui n'ont pas été.
Oui, c'est vrai qu'il y en a plein qu'on n'a pas encore fait.
Mais
qui sont peut-être moins adaptables au film.
Ou alors on a moins des valeurs sûres, donc on se penche sur des valeurs sûres. C'est sûr que l'histoire, on risque pas trop de se planter parce que, comme tu le disais, voilà.
Faut juste relativiser un petit peu quand même. Le cinéma indépendant américain est vivant, le cinéma d'auteur français est vivant. Je rappelle qu'en France, il y a 700 films qui sortent par an, il y en a 300 français, 300 américains et 100 qui viennent d'ailleurs.
Il y a quand même trop,
mais les nôtres sont ultra subventionnés et personne ne va les voir, donc c'est quand même dommage.
Il y en a qui fonctionnent très bien, il y a des succès au box-office français avec des stars françaises. Donc juste faut relativiser. On sait toujours. Moi le problème c'est plus l'inspiration, c'est-à-dire qu'autrefois on s'inspirait de bouquins ou de livres, de grandes œuvres, et qu'aujourd'hui on s'inspire de jeux vidéo et de jouets. C'est peut-être ça qui est peut-être un petit peu problématique. J'irais même si le film Barbie est formidable, ça reste une inspiration de jouets pour faire pour faire vivre une marque qui cherche à faire de l'argent. Non, mais en fait il y a toujours eu ça. Je vais prendre un exemple. Tarzan. Tarzan, c'est un livre qui sort en 1919. En 1920, il y a le premier film, Douglas Fairbanks, formidable. Il en fait une suite d'ailleurs un peu plus tard. Il y a eu 33 acteurs qui ont joué Tarzan depuis 1919. 33. Ouais. Vous imaginez, et je parle pas du nombre de films, je parle juste du nombre d'acteurs. Et je vous passe les remakes parodiques pornographiques des années 70. Les aventures érotiques de Zorro. J'ai découvert ça en regardant le
nom de Zorro. Tu les as dans ton cinématique.
Autant vous dire que les remakes, c'est quelque chose qui a toujours été fait dans le cinéma. Donc pour moi, il n'y a aucun problème. Et de temps en temps, il y a des traits de génie. Il y a un type qui crée Star Wars, qui est nulle part. Il y a un type qui crée Avatar, ça sort de nulle part. Et ça crée des sortes des sagas et des univers tout à fait. Moi, je vous trouve très pessimiste. Encore une fois, alors on va dire que je suis le bisounours du jour, mais franchement, je trouve qu'il y a une richesse.
Mais moi, j'ai pas dit que je trouvais que c'était un problème.
Il y a des choses et puis alors que Ridley Scott touche au mythe de Napoléon, mais n'importe qui peut toucher au mythe de Napoléon.
J'ai pas dit que le problème c'est que Ridley Scott
Gans, c'est
touche.
Formidable.
J'ai dit que le problème c'est que nous, on n'est pas notre version.
Mais on a eu. Il y en a eu un qui a été fait par Antoine Decaune, qui n'était pas terrible d'ailleurs. Abel Gance est absolument formidable quand on le regarde dans sa version restaurée.
Puis son clavier, jouer Napoléon.
Oui,
je sais.
Une série télé. Ouais.
J'ai aimé d'ailleurs, mais pas de cette importance du niveau de ce qu'a sorti. J'arrive pas à m'y faire. De ce qu'a sorti Ridley Scott.
Il y en aura.
Je le dis. Je l'espère. Voilà, mais ça me dérange pas. En revanche, qu'on reprenne encore aujourd'hui le Comte de Monte Cristo, absolument pas.
Après les goûts et les couleurs, mais tu peux oublier qu'il est sorti, le Napoléon.
Merci alors de me décourager d'avance.
On a des messages sur Direct Studio, Alfred.
Oui, plein de messages. Celui de Guy d'ailleurs qui dit: on joue encore du Molière au théâtre, diriez-vous que le théâtre est en panne d'idées? Les classiques sont les classiques, à reprendre avec de bons acteurs. Les nouveautés font légion. Et puis Anthony qui nous dit: le problème, c'est la frilosité de ceux qui financent et qui veulent de la rentabilité assurée.
Il y a quand même cet aspect-là.
On pioche aussi beaucoup de films qui sortent, alors qu'ils ne trouvent pas leur public comme Juliette. Mais il y a beaucoup, beaucoup de films français qui sortent.
C'est une grosse production quand on parle des Trois Mousquetaires, quand on parle du Comte de Monte Cristo.
Oui, mais après, Rémi, on pioche aussi.
Des gens comme Luc Besson, par exemple, c'est des gens qui ont créé des choses absolument incroyables sur des films extrêmement populaires. Il y en a des Luc Besson, il n'y en a pas qu'un.
Ah, parce qu'après, on pioche aussi souvent dans cette veine de romans du 19e, mais n'oublions pas qu'ils étaient publiés, et c'était le mot, en feuilleton.
Absolument. Oui.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été écrits pour être filmés, évidemment. Alexandre Dumas ne pouvait pas imaginer. Imaginé, vu ce qu'il était capable d'imaginer, il a connu la photographie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était écrit en feuilleton, donc c'était fait pour tenir les gens en haleine, c'était avec des coupures régulières, enfin, c'était déjà des séquences, etc. Et Zola et Flaubert, etc., ont beaucoup écrit. Eugène Sue, que plus personne ne lit, mais Les Mystères de Paris. Et ils écrivaient pour ça, donc finalement, ils ne pouvaient pas le savoir, mais ces gens-là, ils ont écrit ce qui était déjà des scénarios, il y avait quasiment les plans séquences. romance, etc. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on pioche beaucoup là-dedans. C'est plus compliqué d'aller piocher dans le roman contemporain. J'ai la modification de Michel Butor en film. Rappelez-vous cette phrase magnifique de Desproges, hein, Marguerite Duras n'a pas écrit que des conneries, elle en a filmé aussi, hein, avec camion pour les abatteurs.
C'est vrai, on avait Pagnol aussi avec Jean de Florette, Manon Dessour, oui, qui avait donné un.
Qui lui a filmé ses propres œuvres.
SOS Fantôme, Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, le cinéma est-il en panne d'idées? Vous nous appelez au 3216, comme le fait Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour à tout le monde.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez d'où, Christophe?
De Thône, côté d'Annecy.
Ah. Haute-Savoie.
Dans les Arabes.
Ouais. Très bien, les Arabes, exactement. Je connais très bien. Très jolie région, très très jolie région. Christophe, vous faites quoi dans la vie?
Chef d'entreprise.
D'accord. Vous êtes amateur de cinéma?
Ah oui, énormément. Et c'est vrai que par rapport à ça, j'y vais de moins en moins.
Alors, c'est-à-dire par rapport à quoi?
Bah, par rapport au fait, j'adore les... En fait, ce que je voulais dire, vous avez pratiquement tout dit. En fait, à chaque remake, son public. Mais en fait, par exemple, les derniers grands films que je suis allé voir, ils avaient une étoile en critique sur Télérama, mais vous sortez, vous avez cinq étoiles dans les yeux.
Donc, c'était quel film?
Bah, par exemple, Top Gun, le dernier Top Gun.
Ah oui, magnifique.
Oui, voilà, c'est descendu par les critiques. Oui. C'est descendu par certaines critiques et c'est des films qui, par exemple, vous font vous évader de, bah, je vois, vous évader de ce monde où, qui est triste en ce moment. Mmh. Et en fait, les gens, ils ont besoin de héros, ils ont besoin de rêver. Donc, en fait, c'est une histoire commerciale aussi.
Mais si mais alors, justement,
rêve d'être à côté.
Les suites ou les remakes, Christophe, vous n'êtes pas contre, donc?
Non, je ne suis pas contre, parce qu'à chaque remake, il y a son public. Après, ouais. Il y a une chose aussi qu'il y a des films où on serait incapable de faire des remakes, comme Autant d'emporte le vent, ou Amélie Poulain, ou...
Méfions-nous.
Et oui, mais Amélie Poulain, vous ne pouvez pas faire un remake, vous ferez un remake américain. Ouais. En fait, il y a des films, ce sont des vraies œuvres, comme Forrest Gump, ou Frappouche. Voilà, ça, c'est des films qui ont marqué des générations, et c'est vrai qu'on est en manque d'idées pour faire des films de ce niveau-là en ce moment. Mais bon, comme tout est commercial, et vous l'avez très bien dit, donc ce qu'on recherche, c'est le profit en premier.
La rentabilité.
Donc on est la rentabilité. Mmh. Et après, heureusement que le cinéma français, il est financé, parce que personne ne financerait ces films qui ont 5 étoiles dans Télérama, mais qui font rien au box-office.
Mais heureusement, qui permettent de...
Bon, enfin, il y a une question de savoir aussi... Il y a une question de savoir aussi, Christophe, parce que je vous entends revenir avec Juliette, il y a un débat en tout cas, est-ce qu'on finance pas trop de films?
Ah bah si,
parce que justement, quand t'as un film qui sort dans une salle de cinéma et qui reste moins d'une semaine à l'affiche parce qu'il n'y a pas de rentrée.
Parce qu'il y a 5000 entrées et qu'on pourra la financer à hauteur de 700, 800 000 euros.
Bah, oui.
Le profit et la rentabilité, c'est pas antinomique avec la qualité d'un film.
Non, justement, voilà. Il faudrait qu'il y ait déjà une présélection au départ.
Ah, on est d'accord.
Voilà, on peut pas tout financer, mais il faut.
Parce que le budget du CNC, Christophe, le budget du CNC, du
Centre National,
voilà, il n'est pas extensible. Donc ça veut dire que plus il y a de monde sur le gâteau, il y a certains films qui auraient pu avoir davantage de chance au niveau de la distribution, de la production, et qu'ils l'ont pas, quoi.
Oui, mais il faudrait qu'il y ait une présélection, qu'il y ait déjà des dossiers qui soient sélectionnés. Mais après, c'est vrai que les cinémas de maintenant avec les remakes, c'est un peu le Netflix du grand écran. Et c'est vrai que, comme le disaient vos chroniqueurs, les écrivains faisaient des feuilletons déjà en livre.
Oui.
Et en fait, il y avait déjà les romans photos aussi à une certaine époque. Et par exemple, on parlait de Ridley Scott, on n'a pas parlé d'Alien. Vous regardez le deuxième, c'est souvent le meilleur de la série.
C'est vrai.
Alors qu'il y a, voilà. Donc en fait, on n'est pas à l'abri en faisant des remakes ou des opus d'avoir encore mieux qu'avant.
On parle d'une suite. Alien, on parle d'une suite.
Oui, c'est les suites, mais.
Regardez, on ne parle pas non plus du Seigneur des Anneaux, mais le Seigneur des Anneaux.
C'est celui avec Sigourney Weaver ou pas?
Ah non, oui, avec Sigourney Weaver, le deuxième.
Ah, moi j'ai adoré.
Oui, c'est
le premier est plus fort.
Ouais. Voilà. Enfin, moi j'adorais.
Ça dépend du style de spectacle qu'on veut. Le premier, il est plus introspectif et puis alors que le deuxième, là, il utilise tous les codes du film d'aventure.
Ouais. Voilà, Christophe, vous allez où au cinéma?
Oh, je vais pas dans les grandes salles parce qu'en fait,
c'est intéressant aussi ça.
J'ai la chance d'habiter à Thônes où il y a un tout petit cinéma.
Ah, génial.
Où on peut y aller à pied. Et en fait, je
remercie
ces gens de continuer à travailler, à nous offrir des films. Bien sûr, ils sont obligés ils passent un peu tout comme film, mais beaucoup de choses commerciales.
Vous avez toujours habité Thônes ou pas?
Non, j'ai habité Annecy que j'ai fui.
Ah bon.
D'accord. Et là, un des derniers.
J'ai ce bonheur-là, Christophe. Non, mais c'est vrai que c'est important parce qu'on parle cinéma et on parle de l'amour du cinéma. Moi, j'ai cette chance-là d'être, comme un certain nombre de Français d'ailleurs, on revient toujours de là où on est parti. Je suis revenu dans ma ville d'origine et aujourd'hui, Christophe, ça va vous parler. Ça, moi, j'ai un cinéma encore en centre-ville, le Palace. Ah bah avec le nom, rien que le nom, moi, c'est moi. C'est là où j'ai vu mon premier film. J'avais 9 ans. Et aujourd'hui, je suis revenu dans la ville. Je continue à y aller et je peux y aller à pied aujourd'hui. Et je continue à y aller. Et c'est à ne serait-ce du bonheur de rentrer dans ce cinéma, de retrouver un peu l'ambiance, même si le cinéma a été rénové, oui, changé. Mais c'est un bonheur. Mais alors, j'ai l'impression d'avoir 10 ans. Hein. Chaque fois que je rentre dans la salle, j'ai 10 ans.
Je sais pas chez toi, mais à Chambéry, le seul cinéma indépendant qui reste, comme ça, le petit cinéma de centre-ville, c'est le dernier à faire de la VO. Ouais. Parce que les grands cinémas ont laissé tomber en province la VO. Et le petit cinéma indépendant nous sort tous les films en VO.
Christophe, c'est intéressant d'y aller. C'est un bonheur. Ouais. Christophe, c'est quoi votre dernier film?
Pardon?
C'est quoi votre dernier film
français?
Le dernier film que vous ayez vu français?
Le dernier film français que j'ai vu, oulala.
Ça remonte.
Je regarde sur Arte, je vous dis.
Bon, le dernier film que vous ayez vu alors?
Au cinéma.
Alors, le dernier film que j'ai vu, c'était Avatar, mais j'ai trouvé ça très, 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 très long. Très, ouais. très, très long. Et en fait, là, il y a un film qui va sortir, c'est pareil, c'est Civil War, je pense que ça, je vais
aller. Civil War, ouais.
Ouais. Et en fait, je pense que ça va être démoli par les critiques françaises.
La semaine prochaine, je crois.
Mais voilà, je pense que c'est.
Moi, j'ai peur, en fait. On en parlait juste avant, c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure. J'ai vu j'ai peur parce que je me dis, soit je vais être très déçu.
Ouais.
Enfin, j'ai peur d'être très déçu en fait.
Ouais mais bon,
on verra.
Mais au Palace, tu peux pas être déçu.
Non, jamais.
Allez au Palace.
S'il le passe en VO. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christophe, au 32-16. Alfred, quelques messages?
Oui, un message de Rudy qui nous dit le cinéma français est nul, mais surtout, qui veut payer 10 euros pour voir ça aujourd'hui? C'est vrai, une question de prix aussi.
Même si ça, c'est une vue de l'esprit aussi. Enfin, quand on aime vraiment le cinéma, quand on compte, voilà, parce qu'il y a des tarifs réduits pour les enfants, il y a des tarifs réduits pour les étudiants. Les abonnements, etc. Non, en moyenne, si on aime le cinéma et qu'on va régulièrement au cinéma, grosso modo, la place de cinéma elle est autour de 7 euros, ouais. 7,50 euros.
La semaine dernière, ça me fait penser, j'étais en week-end à Nice, ouais. On est arrivé avec ma compagne au cinéma, on a vu le prix de la place à 14 euros. Et on a dit, en fait, on va pas y aller. On a fait demi-tour. C'est un film que j'ai pas envie de voir.
Ça peut choquer quand tu vas.
Et on a fait demi-tour.
Ouais. Ponctuellement, ça peut choquer quand t'es ni étudiant, que t'as aucune aide, etc. Et t'as pas pris de passe, mais il y a des passes incroyables. Si tu veux aller au cinéma 3-4 fois par mois, le prix de la place, il baisse drastiquement avec les abonnements. Vraiment.
Et avec notre CE, on peut avoir des places à 5 euros. Hein, je te rappelle.
Oui, mais pas à Nice.
Moi, j'en profite. Bah, je suis dans. Je vais au Palace à Cambrai et je paye 5 euros grâce au CE. Merci RMC. Et merci le CE d'RMC. Julien est avec nous au 32-16. Salut Julien.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre.
Bonjour.
Il y a un petit accent là, Julien.
Bon. Ah oui, le sud.
Manon des sources. Alpes de Haute-Provence.
C'est ça.
On est où exactement?
À Sisteron.
Sisteron.
Ah.
Julien, vous faites quoi dans la vie?
Alors, je suis gestionnaire de résidence HLM.
Très bien. Vous êtes amateur de cinéma?
Ah oui.
Et vous allez toujours? Enfin, parce qu'on peut être amateur de cinéma, il y a de moins en moins.
J'y étais hier avec mes enfants.
Ah, très bien. Vous êtes allé voir quoi?
Kung Fu Panda.
Ouais, avec les enfants, ouais. Les enfants. Bon, c'était bien ou...
Bon, c'est pour les gosses, hein.
Ouais, voilà. C'est la réponse que j'aurais donnée aussi. Ouais. Julien, est-ce que le cinéma est en panne d'idées?
Non. Après, déjà, je voudrais vous reprendre sur un truc, si je peux me permettre.
Allez-y.
SOS Phantom qui sort aujourd'hui n'est pas un remake.
Non, c'est le 5e. Ouais, c'est le 5e.
Voilà. Ensuite, vous avez parlé de Spider-Man qui a des remakes à tour de bras. Non.
Non, c'est
l'adaptation des BD avec le multiverse.
Ouais.
Et on le voit dans le dernier Spider-Man où les trois acteurs qui l'interprètent sont dans le même film.
Bah, t'as rien compris, Juliette.
J'ai pas entendu.
Le multiverse, tu comprends.
Ah oui, alors là, j'avoue, là, je suis un peu largué. Pardon,
bon,
Julien.
Malgré tout, voilà. Julien, on
après,
voit beaucoup de.
Non, le cinéma n'est pas une bonne idée. Après, le problème, c'est que beaucoup de réalisateurs maintenant se détournent du cinéma vers les plateformes.
Ouais, bah oui, ça oui. Ouais. Et des acteurs aussi.
Et voilà, je prends par exemple Netflix, il y a beaucoup de réalisateurs français qui sont maintenant que sur Netflix.
Ouais.
Vous prenez des films comme A Balle Perdue, la série Fury, enfin je fais pas leur pub, hein, mais qui fonctionne très bien.
Le salaire de la peur.
Le salaire de la peur, oh. Voilà, mais ça c'est un reboot par contre, voilà.
Ben oui, mais
pour après, enfin, il y a de ça un an, ils ont fait des suites de Marcel Pagnol, tournées dans le sud, et c'était très bien sorti au cinéma, c'est du cinéma français.
Pour vous, vous, en tout cas, au cinéma, bon, là, ce sont les plateformes, mais au cinéma, vous continuez à en avoir pour vos goûts.
Ah oui, tout à fait, oui. Sauf certains films qui sont des hérésies, mais bon, ça c'est notre histoire.
Ah ben ça, après, c'est les goûts et les couleurs, hein, c'est les goûts et les couleurs. Vous, en dehors des enfants, c'est quoi le dernier film que vous êtes allé voir en le choisissant, vous ?
En choisissant moi, alors il y en a deux, c'était Super Mario Bros.
Pour vous ?
Oui, pour moi, oui.
C'est
ma génération. Hein, le Temps des Secrets, c'était la suite des Marcel Pagnol.
Ah, très bien. Okay. Très bien. Bon, très bien. Merci beaucoup, Julien, voilà. D'avoir été avec nous depuis les Alpes de Haute-Provence. Belle journée et bonne future séance. On va à présent du côté du Loiret, c'est ça ? On est avec Théo.
Bonjour Rémi, bonjour l'équipe.
Bonjour, bonjour Théo, merci de nous rejoindre dans Estelle Midi. Vous nous appelez d'où exactement dans le Loiret ?
Saint-Jean-de-Bray, à côté d'Orléans.
Très bien. Amateur de cinéma ?
J'étais amateur de cinéma, ça fait 3 ans que j'y suis plus allé.
Pour quelle raison ?
Parce que en fait, alors je vais faire un trait d'humour, Rémi, si vous me permettez, je vais pas me barrer en couille.
Je vous le permets.
Mais par contre, alors je vais faire de l'humour parce que j'adore ça. Mais par exemple, Ghostbusters 5, c'est le titre en anglais. Il faut quand même savoir que la traduction française, ça doit être Macron ou son futur gouvernement. Ça c'est de l'humour.
Ouais, c'est fantôme, ouais.
Pour les Trois Mousquetaires, moi j'ai souvenir. Des Trois Mousquetaires, un film de cap et d'épée qu'on ne cesse de moderniser. Bientôt, ils auront des sabres laser, ça s'appellera plus Les Trois Mousquetaires. Le seul que je n'ai pas aimé, que j'ai profondément détesté, et où j'ai vu un acteur occuper le rôle qui lui correspondait, c'était celui où il y a Gérard Depardieu qui joue le rôle de Porthos. C'est neutre mon point de vue. Voilà. Donc, je pense que effectivement, aujourd'hui, le cinéma s'est transformé malheureusement en pompe à fric. Moi j'étais fan dans ma jeunesse d'une série, alors bon, c'est pas des remakes, mais de Star Wars. Pour moi, il y a que 3 Star Wars, c'est le 4, le 5 et le 6. Après, on nous a gonflé avec le 1, le 2, le 3, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11.
Ouais, on tire le filon.
Mais c'est parce qu'en fait, il y a vraiment des fanatiques, et je comprends, hein, parce que je partage leur passion. Mais bon, il y a un moment donné, il faut peut-être que ça s'arrête, quoi. Donc, Star Wars 36, moi, je serais pas là pour le voir. Et je trouve qu'en fait, il y a tellement aujourd'hui d'actualité, de choses dans la vie qu'on pourrait adapter que de reprendre du réchauffer. Ça devient lassant, quoi. Parce que c'est pas. On pourrait dire que je suis un vieux de la vieille.
Non, mais moi, je suis. Puis peu importe. D'ailleurs, si vous êtes un vieux de la vieille, j'en suis peut-être un autre. Hein. Mais moi, j'entends en partie ce que vous dites, quoi. C'est vrai que. Moi, je me le compte de Monte Cristo. Bah, on parlait de Depardieu. Il y a eu Depardieu. Au bout d'un moment, je me dis, ils n'ont pas d'autres idées, quoi. Compte de Monte Cristo. Bah,
par exemple, le dernier film que j'ai.
C'était pas il y a 40 ans, quoi.
Mais chaque génération a le sien. Jean Marais, c'était une génération.
C'était pas il y a 40 ans, le Depardieu dans mon.
C'était
dans
de la compte. Télé d'abord.
D'accord. Oui, mais regardez, enfin, c'était il y a au moins. Qualité.
Regardez la créativité des réalisateurs. Moi, il y a un livre que j'ai mis 10 ans à lire, mais 10 ans parce que je suis un peu feignant. C'était Le Seigneur des Anneaux. Et ben, c'est un putain de film. Et si je dois je l'ai acheté. J'ai été le voir 3 fois au cinéma et je l'ai acheté. Et c'est bien de la création. C'est bien tiré d'un livre de Tolkien. Harry Potter, je n'aime pas, mais c'est quand même bien une belle création. On peut créer sur des choses, mais il suffirait peut-être que les réalisateurs se penchent un peu sur la lecture, enfin sur.
Ah, c'est ce que je
disais. Est-ce qu'on est en panne de romanciers ou est-ce que les réalisateurs ne lisent plus de livres
Ou alors, je pense que c'est un peu tout. Peut-être, j'en sais rien. Et puis il y a une certaine frilosité aussi.
Ouais.
C'est-à-dire que ce roman-là n'a jamais été adapté. Ah, c'est une super idée. Oui, mais enfin, avec Dumas, on est sûr de faire des entrées, quoi. Ah, oui. Et voilà. Bon, merci beaucoup Théo d'avoir été avec nous, qui nous appelait depuis le Loiret. On vous a posé la question, Alfred, SOS Fantôme, Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, le cinéma est-il en panne d'idées ?
Vous répondez oui à 86%, non à 14%. Message de Ludovic, le cinéma français est sclérosé en termes de création. Je pense qu'il faudrait arrêter de faire des films français, car in fine, les scénarios se ressemblent tous.
Allez, dans un instant, RMC Conso, mais avant ça, Alfred, la Ligue des Champions.
Ah, la musique des frissons, Rémi, la musique des frissons, parce que cette semaine, sur RMC, nous vous proposons de gagner l'expérience RMC Barcelone PSG le 16 avril prochain. Nous vous offrons le voyage, votre nuit d'hôtel. et la rencontre aussi avec les équipes de RMC Sport avant le match. Et puis bien sûr, votre place, c'est le moment de vous inscrire en envoyant PSG au 7-32-16, PSG au 7-32-16, votre place pour Barcelone-PSG se gagne uniquement sur RMC.
Allez, dans un instant, RMC Conso, PayPal, service de paiement en ligne le plus utilisé en France, mais gare aux arnaques. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Midi 15h sur RMC, RMC Story, c'est Estelle Midi, Charlotte Méritant nous a rejoint.
Estelle Midi,
RMC Conso.
Salut Charlotte.
Salut Rémi.
On va parler aujourd'hui de deux arnaques très répandues sur PayPal. PayPal, oui. Alors moi j'ignorais, c'est la plateforme de paiement la plus utilisée dans le monde. Et la France n'y échappe pas, puisque c'est la plus utilisée également en France, oui. Tant par les particuliers que par les professionnels.
Oui, tu connaissais pas PayPal?
Si, je connaissais, mais je ne savais pas que c'était la plus
utilisée. Vous l'utilisez ou pas? Oui. Ouais. Ouais, c'est quand même très, très utilisé par 14 millions de Français. Donc, ça fait un sacré nombre. Mmh. Plus de 400 millions de personnes dans le monde. Et donc, ça permet, en fait, de faire tout simplement des transactions, soit entre particuliers, soit de faire des achats ou des ventes, et voire même pour les commerçants, d'encaisser des paiements. Le problème, c'est que, forcément, plus un service comme ça est populaire, plus il brasse de l'argent, plus il est la cible privilégiée des escrocs. Et c'est le cas pour PayPal.
Et l'arnaque la plus répandue, c'est la fausse plateforme qui imite celle de PayPal.
Oui, ça c'est une arnaque qui vraiment cible absolument tout le monde, aussi bien les acheteurs que les vendeurs, les particuliers que les professionnels, etc. Je vais vous donner un exemple tout bête. En fait, vous vendez quelque chose sur une plateforme. D'ailleurs, 60 millions de consommateurs en avaient relaté un exemple il y a quelques mois. C'était une dame qui avait voulu vendre sa cafetière 45€ sur Facebook Marketplace pour être précis. L'acheteur avait insisté pour payer la cafetière via PayPal. Elle avait dit bon pourquoi pas. L'acheteur lui avait envoyé un lien internet sur lequel il fallait qu'elle clique pour aller recevoir son argent. Elle se retrouvait là sur une plateforme qui imitait PayPal, qui ressemblait vraiment en tout point à PayPal, le logo, les couleurs, etc. Donc sans se méfier, elle rentre ses identifiants de connexion, ses coordonnées bancaires, etc. Et le problème, c'est que c'était une fausse plateforme. Ensuite, elle a reçu un appel d'un prétendu conseiller qui était censé l'aider à percevoir les fonds, mais à la place, il l'a simplement poussée sans qu'elle s'en rende compte à faire une transaction en sa faveur à lui de, tenez-vous bien, 9 000 €.
Waouh. Ouais, c'est des grosses arnaques très organisées là.
Oui, très organisées et pourtant malheureusement trop simples parce que c'est très fréquent.
Quel conseil on peut donner justement pour éviter de tomber dans le panneau?
Alors, si vous recevez un mail de PayPal, parce que ça prend la forme de l'exemple dont je vous ai parlé, mais ça peut aussi prendre la forme d'un mail, d'un SMS, etc., vérifiez l'adresse mail de l'expéditeur ou l'adresse du site internet sur lequel on vous renvoie. Ça doit finir par paypal.com ou paypal.fr nécessairement. D'ailleurs, je vous ai mis un exemple d'un email sur rmcconso.fr où on voit bien en fait que l'adresse mail de l'expéditeur n'a rien à voir avec PayPal. Il faut être vigilant. Le deuxième point, c'est repérer les petits signes du type faute d'orthographe, erreur de ponctuation dans le mail dont je vous parle. Il y en avait deux, mais il fallait bien regarder pour les voir.
C'est terrible, ça, parce qu'avant, c'était facilement identifiable, parce que c'était bourré de fautes d'orthographe, de fautes de syntaxe, etc. Ouais. Donc là, moi, je me dis, allez, c'est bon. Maintenant, il y en a de moins en moins.
Mais dans celui que j'ai vu, il était hyper bien écrit. Il y avait une petite faute d'orthographe, un E en trop à un moment
c'est
donné,
mal placé. Parce que le niveau d'orthographe des jeunes Français est en chute libre, celui des escrocs augmente.
Et c'est pour ça que c'est de plus en plus difficile à repérer, forcément, statistiquement. Le troisième point, c'est si jamais vous voulez utiliser PayPal, très bien, mais allez vous-même sur le site. Vous prenez votre ordinateur, votre téléphone portable, vous rentrez l'adresse paypal.com, en plus, elle est très simple à retenir, et vous allez dessus plutôt que de cliquer sur un lien qu'on vous envoie. Si jamais vous êtes quand même tombé dans le panneau, vous pouvez faire un signalement. Il y a une adresse mail pour ça qui s'appelle phishing, donc phishing@paypal.com.
Et deuxième type d'arnaque, l'arnaque via le PayPal entre proches.
Alors là, c'est vraiment tout simple. En fait, elle cible les acheteurs, cette arnaque. Et là aussi, 60 millions de consommateurs en a donné un exemple parce qu'un arnaqueur prétendait vendre des jeux vidéo sur Le Bon Coin et il demandait un paiement PayPal entre proches. Alors évidemment, ce sont des petites sommes, 40, 50, 60 euros, donc les gens ne se méfient pas. Le problème, c'est que PayPal entre proches, comme son nom l'indique, c'est censé servir pour faire des paiements entre proches, donc à votre sœur, à votre mère, à votre frère, à qui vous voulez, mais pas à quelqu'un qui vous vend quelque chose sur le bon coin. Ça a un avantage, évidemment, c'est gratuit pour les deux parties, alors que dans l'autre cas, PayPal classique, c'est payant pour le vendeur. Et bien, l'inconvénient, c'est logique, c'est que du coup, comme c'est gratuit, si jamais il y a un problème, il n'y a pas de recours possible. PayPal n'offre aucune protection. Donc si vous êtes sympa, que vous voulez éviter des frais à votre vendeur et que vous lui envoyez de l'argent de cette manière, et qu'en fait, il ne vous envoie jamais l'article, vous n'avez pas de possibilité de recours.
Donc, très clairement, quand on utilise PayPal entre proches, bah, comme son nom l'indique, on n'utilise qu'avec des proches.
Sous aucun prétexte, vous n'utilisez PayPal entre proches pour un autre système, pour un système de transaction avec un vendeur, quel qu'il soit. Et de manière générale, dernier petit conseil, quand vous achetez ou que vous vendez quelque chose via une plateforme comme Vinted, Le Bon Coin ou autre, eh bien, vous payez directement via la plateforme. Vous n'en sortez pas. Au moins, c'est une sécurité supplémentaire.
Merci beaucoup Charlotte pour ces conseils très clairs, très précis. Merci, on se retrouve demain.
Oui.
On parle de quoi demain?
Alors demain, on va parler des formats maxi et familiaux. Vous voyez en supermarché, ouais, parfois, il y a un petit format, un grand format. On a l'impression que c'est plus intéressant.
Ah bah oui, c'est écrit en gros, ouais. Format familial.
Bah, vous allez voir, vous allez être surpris.
Allez, à demain Charlotte. Et dans un instant, les immanquables avec Alfred. Alfred, on parle de quoi notamment?
On va parler de TikTok qui veut fidéliser ses utilisateurs en les rémunérant.
Bah ouais,
moi, je vais m'y mettre. Incroyable.
Allez, à tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, midi 15h sur RMC, RMC Story. Comme tous les jours à cette heure-là, il est dans les starting blocks. Allez, je l'ai déjà fait hier, mais je leur dis, Alfred Orange.
Salut RMC. RMC, Estelle Midi, les immanquables.
Les immanquables avec Alfred. Donc, on commence avec le stop du jour, Alfred.
Oui, le râteau marqué par Doctolib ce matin. La plateforme refuse d'obliger les patients à enregistrer leurs coordonnées bancaires pour prendre rendez-vous, comme l'exige désormais la taxe Lapin. Vous savez, cette pénalité de 5 euros infligée aux patients qui n'honoreraient pas leur rendez-vous médical. Pour le directeur de Doctolib, il s'agit tout simplement d'une entrave à l'accès aux soins en excluant les 20% de Français qui ne sont pas familiers avec l'informatique.
Ouais, enfin, moi, j'ai surtout l'impression, Thierry Moreau, qu'il a peur que ça décourage un certain nombre de personnes de s'inscrire sur Doctolib.
Mais bien sûr, parce que l'argument avancé par Doctolib, c'est de dire qu'il y a une partie des Français qui est atteint d'électronisme, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas sur les... Sauf que ceux qui ne vont pas...
Ils vont pas sur Doctolib.
Ils vont pas sur Doctolib. Ils prennent rendez-vous par téléphone. Donc, de toute façon, c'est un faux argument. Effectivement, ça va sans doute compliquer un petit peu la tâche de Doctolib, mais c'est pas très grave. Ils vont s'y mettre, ils s'y mettront s'il y a une réglementation. Et moi, je trouve en tout cas que cet axe lapin est une très bonne chose. Quand on voit ce que ça représente, 20 millions de rendez-vous, enfin, c'est un absolument non honoré, c'est absolument monstrueux. Donc je trouve ça très très bien, ça va dégager du temps pour les vrais malades qui vont aller chez leur médecin. Voilà.
Juliette.
Oui, moi j'étais aussi d'accord dès le début avec cette... Alors taxe lapin, par contre taxe, donc c'est... ça revient au médecin, ça revient...
Non,
Si.
Oui, si,
c'est ça,
bien sûr, pas la maladie.
Donc, dans ce cas-là, je trouve que c'est une bonne chose.
C'est du temps perdu pour le médecin.
Même pas les taxes.
Voilà,
c'est du temps perdu pour le médecin et éventuellement un rendez-vous perdu.
Et ça se fait déjà dans d'autres secteurs, comme dans le secteur de la restauration. Quand on n'honore pas sa réservation au restaurant, c'est pas normal. C'est de l'argent perdu pour le restaurateur et c'est bien normal qu'on mette en place une sécurité.
Oui.
Pierre-Edouard Magnan. Alors, enfin, sur le principe, évidemment, enfin, il est pas normal de prendre un rendez-vous et de pas l'honorer, surtout quand on sait la rareté d'un médecin généraliste sur le territoire. Donc, sur le fond, j'ai pas de problème. Concrètement, le vrai truc, c'est que personne ne veut la gérer parce que c'est ingérable, y compris informatiquement.
Il
va falloir que le médecin fasse le travail pour aller récupérer les 5 euros. On verra dans un an combien il y en aura eu. Personne n'ira la chercher. Moi, je peux le dire en interne, mais le régime obligatoire, la Sécu ne voulait pas gérer ça parce que personne ne savait informatiquement. Parce que c'est facile de dire, on prend 5 euros aux gens, mais on les prend où? On les prend comment?
Bah, là, par exemple, si Doctolib, s'il est vraiment,
mais Doctolib, entends, oui, mais Doctolib, faut qu'il ait le droit de vous prélever 5 euros pour autre chose. Enfin, ça nécessite droit, c'est pas. Il y a la partie technique sur laquelle Doctolib joue, mais il y a aussi une véritable partie, Doctolib est un intermédiaire. En plus, Doctolib, c'est pas le médecin direct. C'est-à-dire qu'il vous sert d'intermédiaire entre vous et votre médecin. C'est pas comme les plateformes de consultation où vous voyez un médecin que vous ne connaissez pas, type médecin direct ou d'autres, voilà. Donc, faut faire attention parce que l'idée en soi, très bien, le but recherché, aucun problème. Après, comme toujours, le côté mise en œuvre, ça peut vite tourner une usine à gaz. J'ai hâte de voir d'ici un an combien de 5 euros auront effectivement été réclamés.
La carotte du jour.
Oui. Elle est posée par l'application TikTok, 28 millions d'utilisateurs en France, qui propose dans une nouvelle version nommée TikTok Lite de vous rémunérer en fonction du temps que vous passez sur ce réseau social. En gros, plus vous passez de temps, plus vous gagnez de crédit. Ce crédit, ce sont des pièces virtuelles qui peuvent ensuite être converties en chèque cadeau Amazon d'une valeur maximale de 500 euros quand même.
Ouais. Cher Edouard, il faudrait déjà que je sois inscrit sur TikTok, donc
non, mais je risque de, je vais avoir du mal à gagner de l'argent. Alors après, est-ce que c'est vraiment bien de fidéliser surtout le public qui est sur TikTok pour être encore plus sur l'écran dans le but d'accumuler du crédit et des chèques cadeaux qui en plus alimentent Amazon? Quand on voit ici tous les débats qu'on a sur les commerçants, sur la proximité, etc., etc., dire quelque part, on est presque un peu au bout du bout. Alors, selon les cas, ou de l'horreur ou de l'absurde, comme on veut. C'est-à-dire, voilà, on va notamment plutôt des jeunes. Enfin, les usagers de TikTok sont pas vraiment des personnes âgées, ni même des entre-deux âges comme votre serviteur. Ça veut dire que plus vous êtes sur l'écran, on dit, faut les sortir de l'écran, faut faire autre chose. Plus vous êtes sur l'écran, et vous allez avoir un intérêt de plus en plus parce que on va vous rémunérer. Et tout ça à la fin pour enrichir et filer du podium sur Amazon. Franchement, ça me laisse songeur.
Mais Juliette,
je suis pas victime. Juliette.
Non, alors évidemment, enfin, on va en aucun cas dire à TikTok quoi faire ou ne pas quoi faire. Ils font absolument ce qu'ils veulent et ils rémunèrent leurs utilisateurs s'ils le veulent. En revanche, moi, je pense que dans ce pays, il va falloir, et à travers le monde d'ailleurs, mais dans ce pays, il va falloir se pencher un jour sur l'impact des réseaux sociaux, sur la santé mentale et l'effondrement du niveau en France sur nos jeunes. Je pense qu'il faut vraiment qu'à un moment donné, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour limiter les dégâts, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la casse, parce que c'est un désastre. C'est un désastre et le temps passé par jour sur TikTok par les jeunes,
c'est du temps de pas passer ailleurs, c'est... notamment dans les relations sociales. Ils en
parlaient de la lecture. C'est un vrai gros problème.
Catastrophe chez les jeunes.
Ce qui est fou, c'est qu'on ne rémunère plus les contenus, les créateurs de contenus sur les réseaux sociaux. On rémunère ceux qui utilisent les réseaux sociaux. On arrive à un niveau de
schizophrénie.
Bah oui.
Mais non, mais ça, après, ça,
à récolter quelques sous en regardant très longtemps.
Si l'entreprise s'y retrouve, je sais pas. C'est pas à eux de régler les problèmes de santé mentale des jeunes.
Il faut que l'État régule.
C'est à nous.
Paye pour consommer et là on va te payer pour consommer. Est-ce qu'en termes de raisonnement, enfin c'est un cas nouveau dans le commerce.
La poubelle du jour, Alfred. C'est en fait deux cochons qui ont été embauchés par une commune de Gironde pour trier les biodéchets, comme le demande la loi désormais. Le village d'Aubiac a décidé qu'au lieu d'investir dans un composteur traditionnel, deux cochons se chargeraient de manger les restes de la cantine scolaire, une initiative perçue sur place comme un exemple de bon sens paysan.
Il ne doit pas rester grand-chose après, parce que sachant ce que mange le cochon,
ça mange tout.
Ça mange tout.
Thierry, bonne idée ?
Pourquoi pas ? Je pense que
c'est ce qu'on entend, c'est si vous nous écoutez à la radio, on le voit en image sur RMC Story.
C'est meilleur en bruitage
c'est
quand
je trouve.
Ils sont en train de trier à leur manière les déchets de la cantine.
Tic et tac, leur prénom.
Ah oui, c'est magnifique.
C'est mignon.
Non, mais c'est plutôt une bonne idée. Je trouve que, voilà, après, je pense que toutes les communes ne peuvent pas le faire et je pense que les communes périurbaines, ça pourrait être un peu compliqué. Voilà.
Puis il y aurait des problèmes d'élevage, d'énormes élevages de cochons en milieu des villes pour les détruire. Après, voilà, dans le cochon, tout était bon. Aujourd'hui, le cochon est bon à tout.
Peut-être pas de mauvaises idées à Paris, vu qu'il traîne dans les rues.
Et en tant qu'arrière petite ville,
j'aurais peut-être dit manger les rats en dessert.
Cet usage du cochon.
Pour en élever des.
On pourrait manger les rats en dessert, ça nous arrangerait.
Allez, le coup d'arrêt du jour pour terminer.
Syndicats et patronats se sont quittés dos à dos hier sur le CDI senior, ce CDI réservé aux plus de 60 ans qui devait permettre aux seniors embauchés de partir dès qu'ils avaient cotisé assez de trimestres pour leur retraite, mais sans qu'il soit possible alors pour eux de rester et d'améliorer leur pension de retraite. Inacceptable donc pour les syndicats qui ont donc décidé de claquer la porte.
Bon, là c'est un direct de sourd apparemment, Pierre-Edouard. Oui, enfin de toute façon, le patronat avait conçu un projet, ce qui jusque-là est son droit. Il avait en gros expliqué aux syndicats, c'est à prendre ou à laisser, avec le soutien du gouvernement derrière. Donc à un moment, il y avait aussi des problèmes sur les démissions, il y a des problèmes sur l'accès à la formation. Et moi, ma vraie inquiétude derrière, c'est qu'on sait que c'était un des axes de la convention d'assurance chômage qui, par ailleurs, avait été négociée en novembre dernier. Ce refus de cette partie sur le CDI senior va très probablement entraîner un refus de validation de la convention d'assurance chômage. Et l'État va faire ce qu'il veut. Et Bruno Le Maire, moi, ça fait des années que je le dis, mais là, Bruno Le Maire l'a dit officiellement, l'État va récupérer la gestion de l'assurance chômage.
Ma crainte à terme, c'est ni plus ni moins que quand vous serez au chômage, vous serez au RSA dans une forme de régime obligatoire, pour parler comme la santé. Mmh. Et puis, bah, si vous en avez les moyens ou si vous êtes dans une grosse boîte, vous aurez une régime complémentaire à votre charge. Et puis, sinon, pour les autres, bah, vous vous démerderez avec le RSA. Le vrai drame, c'est qu'on est en train de détruire définitivement l'assurance chômage telle qu'elle a été conçue depuis les années 50, qui était un des filets de protection sociale de notre pays. Et, mais bon, comme il est à la mode de taper sur les chômeurs, on s'en donne à cœur joie. Et là, c'est évidemment le phénomène qui va, à mon avis, permettre à l'État de tuer l'UNEDIC et de tuer l'assurance chômage.
Allez. C'était le dernier sujet des immanquables du jour. Tout de suite, eh ben, tiens, Vincent Cerussi nous rejoint.
RMC, Estelle Midi.
Cerussi n'a pas tout compris.
Salut Vincent.
Salut Vincent. Et maintenant elle est trop basse, mais c'est pas possible cette chaise.
Je parle de la chaise pour ceux qui nous écoutent en radio. Aujourd'hui, Vincent, tu ne comprends pas pourquoi les syndicats veulent faire grève pendant les JO.
Ça a pété. Oui, bah écoutez, ils veulent faire grève. En vrai, on va pas s'en rendre compte. Hein. Ça va être compliqué de foutre plus le bordel que les JO eux-mêmes. Et en même temps, bonne idée cette grève, parce qu'avec tous les touristes, ça sera l'occasion de montrer nos traditions françaises aux étrangers, évidemment. Bon, de toute façon, les syndicats ont déjà signé un préavis de grève jusqu'à septembre. Maintenant, il ne leur manque plus qu'à trouver la raison de la grève. Bah, voilà.
Justement, une grève pour protester contre le gouvernement qui veut faciliter le licenciement des fonctionnaires. C'est ce que
Stanislas Guérini. Exactement, mais je sais pas si ça va marcher, parce que des fonctionnaires qui veulent virer d'autres fonctionnaires, ça va quand même prendre un peu de temps. Après, je comprends le gouvernement, parce que la seule manière de virer un fonctionnaire, c'est pour faute grave. Hein. Et pour qu'il y ait faute grave, faut bosser, donc c'est impossible de les virer. Et, non, en vrai, vous êtes pas très cool de me faire taper sur les fonctionnaires. C'est quand même mon cœur de cible. Qui d'autre pourrait écouter une chronique à 14h50 ouais,
Changeons de sujet. En parlant des JO, on a aussi parlé d'utilisation de la reconnaissance faciale pour lutter contre la délinquance. Est-ce que tu y crois?
Mais ouais, de base, moi, j'ai tendance à y croire. Oui. Ils l'ont fait en Chine et ça fonctionne. Et s'ils arrivent à reconnaître des Chinois entre eux et que ça marche, bah, ça peut marcher un peu partout. Non, mais la reconnaissance faciale, ça peut aider, notamment pour détecter des situations anormales. Genre, regardez, c'est Rachida Dati, Anne Hidalgo en train de se faire la bise. Ah, tu vois, ça, on n'avait pas prévu. Quoique, reconnaître Rachida Dati avec tout le botox, c'est quand même compliqué de l'identifier, je pense.
Bon, justement, Vincent, tu penses que c'est une bonne idée d'utiliser la reconnaissance faciale pour sécuriser les JO?
Ouais, pour les JO, je suis quand même un peu moins fan. Mal à identifier les athlètes français, c'est ceux qui remportent pas de médailles. Mais sinon, je doute un peu, quoi. Quoi, ils vont installer le premier jour et au bout de 5 minutes, l'intelligence artificielle, elle sera là. Danger partout, annulez les JO, vous n'êtes pas prêts, virez Hidalgo. Puis bonne chance pour reconnaître les athlètes paralympiques. Il manque un bras, il manque un pied. Le système va bugger, quoi. Va pas bien marcher.
Bon, Vincent, tout à l'heure aussi, on s'est posé la question avec la sortie de films souvent adaptés de romans. On s'est demandé si le cinéma était en panne d'idées.
Ouais, je vous ai entendu. J'avais l'impression d'écouter des critiques de cinéma. Je me suis cru dans le masque et la plume pendant un moment, puis j'ai entendu Pierre-Édouard Magnan.
J'ai le cœur brisé. J'ai bien compris. C'était rien que pour toi, Vincent.
Merci. Mais j'ai bien compris qu'on n'était pas sur France Inter. Du coup, c'est vrai qu'on n'a plus vraiment d'idées. Hein. Là, ils nous ressortent encore les trois mousquetaires. Quand ils auront fini, ils vont élargir la franchise. Bientôt, on va avoir les trois mousquetaires non binaires. Pendant tout le film, ils se demandent s'ils veulent faire un plan à trois ou s'ils veulent construire une relation polyamoureuse. Moi, j'y crois pas beaucoup.
D'accord, mais alors, si le film marche, ça marche.
Non, mais d'accord, mais au bout d'un moment, ils veulent même ressortir des films au cinéma. Maintenant, on a tellement plus d'idées, là, ils vont ressortir les choristes. Eh ben, on a vu, du coup, c'est bon. Et l'excuse, c'est de dire que ça sort en 4K. Voilà. Au cas où, on n'avait pas bien vu, finalement, peut-être des effets spéciaux sur Gérard Jugnot. Normalement, il a des cheveux, voilà, on ne sait pas. Non, quitte à faire des remakes, faites un truc original. Genre, faites un remake des Avengers version gouvernement. Yes. Macron, dans le rôle de Batman inversé. La nuit, il enfile son costume pour protéger les riches. Sylvie Retailleau, dans le rôle de Star-Lord. Personne sait qui c'est. Et enfin, Gabriel Attal, dans le rôle de Spider-Man, parce qu'il voulait absolument la combinaison moulante. Voilà, ça serait pas mal.
Merci, Vincent. On se retrouve demain. Vincent Cerussi n'a pas tout compris. Et Vincent Moscato nous rejoint. Comment ça va, mon Vincent?
Bon, ça va les choses?
Vincent?
Bah, que dis-moi. Oh.
C'est un jour pas comme les autres.
Ah, bah, tonight is the night.
Tonight is the night.
Oui, je suis sur Duolingo. 367 jours sur Duolingo.
Ouais, magnifique.
Ça progresse en anglais. Je veux dire, j'ai un peu l'anglais d'Arafat, everybody tonight.
Coup de live meet, je sais pas si.
Après, ça qui va.
Donc, on va parler du PSG.
Alors, on va parler du PSG, bien entendu. PSG, c'est mouvementé ce soir, ça va chauffer. Enfin, bon, gros match contre le Barça. Ça va être chaud du réchaud quand même. Attention. Attention. L'OM peut-il sauver sa saison contre Benfica? Ça, c'est la page de comédie. Ouais. La page comédie. Donc, peut-il sauver sa Benfica? Il tourne pas bien. Ouais. Ça fait peur, mais ils peuvent jouer le coup. Et puis, la danse de trop, The Last Dance. On a l'impression que Woods, Nadal, Karabatic, ouais, ils font le truc. Ouais. Ils veulent pas, ils veulent pas. Bon, ils aiment l'oseille. On va pas leur reprocher.
Il voilà, n'y a pas que.
Hein. Ah, non, il n'y a pas que. Nous aussi, on aime l'oseille. C'est une addiction, l'oseille. J'avais un pote qui s'était collé un dollar argenté. Là, sur le truc, ça n'est pas passé. Un patch de dollar argenté. C'est pas passé. Donc, écoute-moi, je ne sais pas pourquoi ils y sont. Ils ont envie. Karabatic, bon. Woods, Nadal. Ils y vont. Alors, on va en parler. Est-ce que c'est bien, pas bien? Le match de trop. Tu sais,
ouais, le tournoi de trop.
C'est toujours ça, mais j'ai l'impression que tout le monde a mérité. T'arrêtes jamais. Tout le monde fait le tournoi de trop.
Bah, je ne sais pas, toi, t'es encore très jeune. Donc,
Ouais, mais bon. Voilà. Moi je joue encore. Hein.
Ouais. Et le tournoi destination peut-être un
oui,
peu.
Oui, c'est ce que j'allais dire, le tournoi destination, on fait quoi
pour vous me la levez
ben oui,
de la bouche. La boucle. Ouais. Vous me la levez. On reviendra sur cette équipe écossaise ce soir. On n'en a pas assez parlé. On ira voir si la légende est toujours vraie, s'ils ont rien, je le quitte.
C'est donc à l'écossais l'investigation là.
Et puis là, on sort de l'hiver. On va voir que les deux jumelles sont frigorifiées quand même.
Il faut avoir du 18 ans d'âge pour se réchauffer.
T'as toujours l'angle aussi. Le tournoi destination, les terrains étaient-ils praticables?
Les terrains étaient pratiquables. Et encore une fois, on reviendra sur le dossier, est-ce que l'engrais fait pousser le synthétique?
C'est une très bonne question. Que rarement les autres osent aborder.
Sujet tabou. Pas de langue de bois. On ose tout. On voit.
Tous les tabous disparaissent.
Super Moscato Show, je vais te dire.
Pas de tabou.
On ne la voit pas dire. On le dit nous-mêmes.
Le Super Moscato Show, c'est dans un instant sur RMC. Oui, ben oui. Et nous, on se retrouve demain à midi.
Canaille. Les mines complètement barrées. Yeah.